On parle d'un footballeur, Claude.
Frédéric Lartillo, que ses copains surnommaient Ben, dans l'équipe de vétérans de Nurieux-Volonia dans l'Ain. Le 10 septembre dernier, Ben avait marqué un beau but contre Sertine, mais après la douche, il avait eu du mal à respirer. Il avait réclamé sa ventoline, il avait eu des douleurs à la poitrine, et en dépit des massages des copains et de l'arrivée des pompiers, Frédéric Ben Lartillo est mort ce soir-là, lui qui aimait rendre service et qui écoutait Johnny dans son camion. Il était chauffeur routier. Le Progrès du 11 septembre nous avait un peu raconter sa vie, c'est le rôle de nos journaux près de nous. Mais ce matin, et ça ce n'était pas prévu, le Progrès nous reparle de Frédéric Lartillo, qui depuis sa mort est devenu la proie, l'otage, le prétexte d'une folie mondiale. Son nom et son décès voyagent sur les réseaux sociaux de tweet en tweet, de complotisme en complotisme. Car des internautes, des politiques tels l'ancien candidat présidentiel François Asselineau, des anti-vaccins, dressent des listes de sportifs morts d'arrêt cardiaque pour affirmer ou suggérer que le vaccin contre le Covid serait responsable de leur disparition. Et le nom de Frédéric est tweeté au Brésil, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, et sa famille subit. Mes enfants et moi-même nous opposons à ce que le nom de mon mari et son image soient associés à ce mouvement anti-vax, dit sa veuve. Le vaccin n'est pas la cause de son décès, mais nul ne sait comment empêcher qu'un homme soit abusé sur les réseaux sociaux après sa mort. Le Monde nous raconte comment en Ardèche, où le virus circule plus qu'ailleurs en France, mais on y est moins vacciné, les tensions montent entre vaccinés et non vaccinés. Cela s'appuie sur une tradition politique locale faite de contestation de l'État, de défiance envers la règle et d'esprit 68-art. On a arraché les plaques professionnelles d'infirmiers qui vaccinaient contre le Covid et on a déposé une lettre anonyme dans leur boîte aux lettres, leur demandant de cesser dès à présent toute injection à la population. À la une de la Dépêche, on parle de la santé des femmes et du risque de tumeurs au cerveau, bénigne mais quand même, des méningiomes, risque que provoque, augmente des molécules présentes dans des médicaments prescrits avec succès contre des troubles gynécologiques. On cite le luténil et le lutéran. L'Agence nationale du médicament et des produits de santé conseille de pratiquer une IRM en cas de traitement de plus d'un an et les médecins doivent présenter aux patientes une attestation décrivant le risque. Mais une association de malades et la Dépêche trouvent que les précautions sont insuffisantes. La Dépêche, exagère-t-elle, évoque à sa une la possibilité d'un nouveau scandale sanitaire.
On parle aussi d'une odeur.
Et cette odeur, pardon, est infecte, nous dit le Parisien. Une odeur de poisson, une odeur de viande. Et cette odeur s'accompagne de liquide, du jus de poisson ou du sang qui dégouline de bagages qui arrivent d'Abidjan, Côte d'Ivoire, à Orly. Les bagagistes de l'aéroport les manipulent avec des gants, des combinaisons et se fâchent. Et c'est l'enfer d'une bonne intention. Un passager venant d'Abidjan dit au Parisien, qui est sur le terrain, qu'après tout, un Normand qui va voir des amis à l'étranger leur apporte un camembert. Eux, les Ivoiriens, c'est pareil. On apporte de la viande de brousse de Côte d'Ivoire, notamment de l'agouti, qui est un rongeur goûteux. Mais de là à congeler l'agouti avant de voyager, de le mettre dans la valise par plusieurs kilos parfois, ce n'est pas hygiénique. À côté de cela, le même Parisien nous raconte un excès d'hygiène. Le syndicat des eaux d'Île-de-France veut offrir une eau plus pure que pure, aurait dit Coluche, qui sera filtrée par des membranes tellement ultra fines qu'il faudra ensuite enrichir cette eau de minéraux pour qu'elle soit potable. La technologie doit être mise en place à Savigny-le-Temple, mais des élus renacles ils disent que cette technologie va mettre à mal la nappe phréatique, que l'eau du robinet est déjà très bien et que ce sont des intérêts industriels qui mènent l'opération, une impureté. Pendant ce temps, le Figaro s'inquiète de l'immigration et spécifiquement de l'immigration pour soins. 25 987 étrangers ont demandé l'an dernier des titres de séjour pour se faire soigner chez nous. Et ce serait un risque de dérive des dépenses de santé publique, car nous offrons aux étrangers des soins sans limite de dépenses. Le Figaro cite un rapport de l'Office de l'immigration et de l'intégration qui veut cadrer notre générosité que le monde nous envie. Nous invitons aussi Philippe de Mester, jésuite de 72 ans à Calais. Il ne fait plus la grève de la faim pour les migrants, mais en cette période de l'Avent, il a décidé d'aller dormir avec eux dans la jungle. La Croix passe la nuit avec lui. Le Républicain Lorrain, lui, comme souvent en décembre, retrouve Jean et Chantal Bombardier, 88 et 75 ans, qui, comme chaque année depuis 10 ans, accueillent pour un dîner gastronomique, oh la tarte au Mirabelle, des étudiants étrangers. Les Échos, eux, nous disent que l'immigration participe à la croissance du transport aérien. D'un même sujet, l'étranger, nos journaux, chacun font leur plat.
Et on parle enfin de Madame Bovary.
Mais appelez-la Emma Nicolas de son petit nom. Oui. L'héroïne de Flaubert, qui nous fait ses 200 ans, Flaubert, et qu'un téléfilm sur France 2 célèbre ce soir ainsi Emma Bovary raconte l'histoire à partir du procès que Flaubert subit pour outrage aux bonnes mœurs à la sortie de son livre. Et ce procédé narratif enthousiasme le Parisien, ravi que Bovary soit dépoussiéré et politisé, car il s'agit d'une lecture féministe de l'œuvre, Bovary incarnant toutes les femmes victimes du patriarcat. Le suicide d'Emma Bovary, je cite le Parisien, prend le goût amer d'un féminicide dont la société tout entière serait coupable. En contraste, car on se dispute en France sur la littérature, le Figaro déteste cette offense aberrante faite à Flaubert et à la littérature. Curieusement, au mois d'août dernier, rendant compte de la préparation du film, le Figaro semblait trouver l'idée prometteuse, mais c'était une journaliste femme qui écrivait « Là, c'est un homme, François Aubel, ça compte ». Aubel pourtant apprécie, je cite, « le joli minois de l'actrice Camille Métayer ». Il y a dans ce mot minois des trésors de sens.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.